ce qui est vraiment en cause avec la contestation qui a été faite par la Ligue du Nord de la commémoration du 17 mars, c'est un État centralisé dans les modalités qui ont été celles du Risorgimento. Et ça a été en fait une manière de protester contre la politique menée par l'État italien envers le Sud depuis des années. Donc que l'Italie ne soit pas un pays totalement unifié économiquement, socialement, politiquement, bah tant mieux, c'est une démocratie, c'est un pays pluriel, c'est un pays clivé, mais les clivages sont largement accentués par une rhétorique politique menée par la Ligue du Nord depuis les années 90 à peu près.
Le Nord contre le Sud contre le Nord, un régionalisme très fort, les derbies entre deux équipes de foot de la même ville. Comment est-ce qu'on fait pour créer du lien alors qu'il y a cette pluralité qui est bonne mais qui parfois vire à la rupture?
Disons, c'est une pluralité qui est conflictuelle parce que je crois qu'elle est instrumentalisée. Et elle était instrumentalisée en particulier par un usage récurrent et très ancien de stéréotypes, d'abord nationaux, hein, le caractère italien, les vices italiens tels qu'ils étaient décrits au XVIIIe siècle, qui ensuite ont été récupérés au moment de l'unification, aussi bien par le Nord que par le Sud, car le Nord considérait que le Sud c'était l'Afrique. Du côté des méridionaux, eh bien, puisqu'on leur disait qu'ils étaient des Africains, ils commençaient à se comporter comme ça, parce que c'est le poids des stéréotypes. Il y a des problèmes de fond, des problèmes économiques, politiques, comme dans tous les pays européens. Mais le débat politique est véritablement pollué par cet usage paresseux des stéréotypes auxquels, je crois, il faut vraiment faire très attention, parce qu'on les retrouve même dans des travaux sérieux. Enfin, ça s'infiltre partout. Or, c'est paresseux, et les stéréotypes, c'est forcément faux. Ça sert forcément à quelque chose.
Donc en tête, il faut renouveler la classe politique.
Oui, je crois qu'il faut vraiment que l'Italie fasse très attention à ne pas perdre le rattrapage scolaire qui avait été effectué dans les années 60, aussi bien au niveau de l'éducation primaire que secondaire, qu'universitaire, que de la recherche. Qu'elle ne brade pas l'éducation, parce que l'éducation, c'est quand même à la fois l'élément fondamental, je dirais, de la formation de citoyens à peu près avertis. C'est l'élément fondamental pour la classe politique, pas seulement éduquée, mais dont les intérêts aillent au-delà de leurs intérêts propres. Et l'éducation, c'est fondamental pour l'économie. C'est-à-dire que la formation initiale, la formation continue, c'est un gage de productivité. Ce n'est pas une solution à court terme, mais c'est en tout cas quelque chose qu'il ne faut pas lâcher si on veut aller vers un débat politique qui reprenne de la consistance et de la hauteur.
Le drapeau italien est partout, l'hymne national, tout le monde le connaît. Et puis, il y a quand même cette espèce de fierté d'être italien. C'est quand même quelque chose qui identifie les Italiens, non ?
Oui, alors écoutez, de toute façon, je crois que les identités nationales, ça n'existe pas naturellement, ça se construit. Les drapeaux italiens partout, l'hymne national connu par tout le monde, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça reprend. Alors, est-ce que c'est d'une manière purement conjoncturelle à cause du débat autour de l'unification et donc le fait que les gens qui apprécient et veulent rester dans l'Italie telle qu'elle est, finalement, le montrent ? Mais cette fierté d'être italien, si vous voulez, je ne la vois pas se transformer aujourd'hui dans un nationalisme agressif comme celui du fascisme qui a fait qu'effectivement le mot nation et le nationalisme sont des mots, des paroles, des idées qui ont été bannies pendant presque 25, 30 ans après la fin du fascisme. Donc se sentir italien aujourd'hui, c'est à la fois se sentir italien, connaître le drapeau tricolore, connaître l'hymne de Mameli, vibrer à son équipe de foot, apprécier la pasta. Enfin, vous avez toutes sortes de niveaux d'une identité, mais qui sont des identités qui ne sont pas essentialistes. Ce n'est pas un DNA italien. C'est une construction d'éléments que l'on qualifie d'identitaire.
Qu'est-ce qui porte alors l'identité essentialiste italienne? C'est quel symbole, quelle personnalité?
Mais il n'y en a pas. Il y a un sentiment d'italianité, mais qui est mis en place par les élites autour de la langue, que parle 5% de la population. Donc on est typiquement dans le cas d'une construction d'État-nation au XIXe siècle, telle qu'elle a pu être étudiée, c'est-à-dire la construction effectivement d'un artefact indispensable, mais qui ne correspond pas à une réalité essentialiste, identitaire, qui est préexistante, et qui est donc susceptible d'évolution, parce que c'est une résultante de contraintes politiques, économiques, internationales, à un moment donné. Donc l'État-nation n'est pas éternel, hein, et le problème n'est pas de le préserver absolument, c'est de voir si l'État-nation est aujourd'hui encore la forme politique au niveau international, au niveau national, qui est la plus efficace pour les citoyens.
Le modèle centralisé, unitaire centralisé, est quand même un petit peu mis à mal, on va dire. Certains pensent que ce n'était pas forcément le choix le plus judicieux, même s'il fallait fortifier un État fragile. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le réinventer, le reconstruire comment ?
Si on prend le problème au début, en 1848, on aurait pu effectivement imaginer que la solution au mot de l'Italie aujourd'hui, eût été la solution d'un rassemblement d'États qui existaient déjà dans une fédération italienne sous la houlette de Pie IX. Pie IX n'en a pas voulu. Alors, est-ce qu'on peut réinventer le modèle italien ? Il est déjà largement réinventé par rapport à ce qui était sa réalité pendant, disons, les années de l'Italie libérale ou même l'Italie fasciste. Le poids des régions est réel, les responsabilités, les compétences régionales sont réelles. De là à passer au fédéralisme, comme c'est aujourd'hui le mot d'ordre de la Ligue du Nord, il faut faire attention parce qu'il faut savoir de quel fédéralisme on parle. C'est un mot d'ordre lancé de manière générique ou comme repoussoir ou comme solution. Il y a des exemples, évidemment, d'États fédéraux, à commencer par les États-Unis ou l'Allemagne, qui fonctionnent extrêmement bien. Mais là, on est dans un fédéralisme de revanche qui succède à des mots d'ordre sécessionnistes. Et on voit bien pourquoi, aujourd'hui, on parle plutôt de fédéralisme, parce que comme la Ligue du Nord assume maintenant une posture xénophobe très forte, il est évident que si on est xénophobe, il faut bien défendre quelque chose, et que ce quelque chose, c'est une nation. Donc on ne peut pas être sécessionniste et xénophobe en même temps, en tout cas pas au niveau de la péninsule. Donc aujourd'hui on lance cette idée de fédéralisme. Maintenant le problème c'est quelles sont les compétences qui seraient données aux régions, quelles seraient leurs ressources, est-ce qu'il y aurait un élément de répartition des ressources fiscales. Enfin, il y a un énorme champ de réflexion qui serait tout à fait intéressant s'il était mené de façon sérieuse par une classe politique sérieuse.